Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ça m'amuse toujours beaucoup d'entendre oui, il faut arrêter avec le numérique, il faut couper les réseaux, il faut... Moi, j'aimerais bien que ces gens-là le fassent, qu'ils arrêtent de faire leur publicité, leur auto-promotion par Twitter, par Insta, par YouTube, qu'ils arrêtent de passer aussi dans les relais médiatiques qu'ils dénoncent eux-mêmes pour les plus jeunes. J'aimerais beaucoup. En plus, ça nous reposerait pour le coup, peut-être.
Nous sommes en guerre.
Comment ça va mieux depuis le confinement et puis le couvre-feu et puis le confinement numéro 2.
Allô ?
Oui, allô, Louise, c'est Anouk. Je te dérange pas ?
Non.
Bah, en fait, je t'appelle pour mon podcast. Je sais pas du tout si t'as compris le principe ou si tu veux que je te le réexplique.
Je veux bien que tu me réexpliques, comme ça au moins, on est sûr que je te raconte pas n'importe quoi.
Ouais, en gros, le principe, c'est qu'en ce moment, je vais pas super bien en termes de morale et globalement, j'ai l'impression que c'est un état d'esprit très partagé de pas aller super bien. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire un podcast qui s'appelle « Comment ça va mieux ?» où la première partie, c'est d'interroger des personnes qui rencontrent une problématique particulière dans ces moments où ça va pas trop. Et dans la deuxième partie, je vais interviewer des spécialistes, professeurs, experts de ces sujets particuliers pour trouver des solutions ou en tout cas les décortiquer. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Parce qu'en fait, on a oublié de présenter.
Alors, je m'appelle Louise, j'ai 20 ans. J'habite à Lyon et là je suis revenue confinée chez mes parents parce que je suis en études de design numérique et du coup c'est exactement le genre d'études que je peux faire en étant que sur mon ordi, donc je suis en télétravail en ce moment. Alors au dernier confinement, je me suis rendu compte que j'écoutais plus du tout les infos, j'étais que dans de la musique, des podcasts, je vivais que les trucs du moment présent et en fait c'est en revenant on va dire dans une vie un peu où on pouvait sortir et tout ça, et en allant chez mes parents qui, eux, regardent la télé, qui écoutent la radio, il y a toujours des journaux qui traînent, et donc là, j'ai tout repris de plein fouet, d'un seul coup, et tout ce qui s'était passé, et dans tous les pays, et du coup, ça faisait beaucoup d'un coup, et c'était assez dur. En ce moment, c'est plus une espèce de truc où je vois passer plein de choses, et j'ai peur d'être dans un état de... Ok, bon, bah, ça aussi. Dans ce pays-là aussi, c'est la merde. Ok, bah, il y a trop de choses, en fait. Donc, j'ai peur de même plus être si sensible que ça. Et du coup, je vais pas être moins empathique ou moins triste, mais je vais moins m'attarder dessus. Et du coup, c'est aussi compliqué, parce que j'aimerais bien pouvoir comprendre tout ce qui se passe. J'ai hâte d'écouter ce que va dire la spécialiste, du coup.
Ouais.
Mais en même temps... Je sais pas, je sais que j'en ai parlé avec ma mère qui est très détachée et qui me dit non, mais regarde, tout va bien, t'as qu'à écouter de la musique plutôt que d'écouter la radio et puis tu te concentres sur les trucs qui sont chouettes. Bon, c'est cool de pouvoir parler de ça et de faire un peu un travail pour que les gens à qui ça arrive puissent se dire ah ben je suis pas tout seul et qu'il y a des solutions.
Bonjour Anne Cordier, vous avez été professeure dans le secondaire, vous êtes aujourd'hui enseignante-chercheuse en sciences de l'information et de la communication, autrice du livre « Grandir connecté, les adolescents et la recherche d'informations ». Est-ce que vous souhaitez ajouter des informations pour vous présenter ?
Non, je dirais que c'est assez complet. Alors peut-être ajouter que je continue sur la lancée de Grandir connecté d'enquêter auprès de jeunes publics et de jeunes adultes autour de leur rapport à l'information. On a tendance à penser que parce qu'ils sont, parce qu'ils ont entre 20 et 30 ans, ils sont sur les réseaux sociaux, ils aiment publier des photos d'eux sur les réseaux sociaux, c'est la génération Instagram, on entend beaucoup ça. On les considère quand même comme extrêmement flexibles, habitués à travailler avec les écrans, par exemple. C'est notamment une génération qui aujourd'hui subit alors de plein fouet avec la crise aussi qu'on connaît les affres du télétravail en fait, et une sorte d'injonction au travail connecté bien vécu quoi.
Ce qui n'est pas forcément le cas.
Ah non, ce qui n'est pas forcément le cas du tout. je crois malheureusement pas plus pour eux que pour nous, parce que je suis un petit peu plus vieille, donc je ne peux plus me mettre dans cette génération-là. Mais non, pas du tout. D'ailleurs, moi, je vois tout bêtement aussi mes propres étudiants hein, qui vivent très, très mal les situations de dite continuité pédagogique, de travail à distance. Et dans les jeunes adultes que je suis aujourd'hui, un certain nombre sont salariés. Et il confie la difficulté de ce temps qui se dilue, se délite, enfin qui est vraiment extrêmement compliqué à maîtriser. Il confie aussi tout simplement des difficultés de techniques, d'appréhension des réseaux, des plateformes, des modalités de travail. Ils savent pas toujours quelle plateforme utiliser. Ils sont beaucoup plus démunis qu'on ne le dit et qu'on ne le pense. Comme tout le monde, en réalité, comme tout le monde.
Justement, dans une interview pour l'émission 56 Cast, j'espère que je prononce bien le nom de l'émission, j'ai entendu que vous souhaitiez interroger le rapport des ados à l'information, soulignant qu'il faut arrêter de se focaliser sur le jeune et l'ordinateur, parce que finalement, je vous cite, la problématique est plutôt le jeune et ce monde dans sa globalité, l'ordinateur n'étant qu'un outil de ce monde. Est-ce que si finalement le numérique n'est qu'un outil, vous pensez que notre morale serait globalement le même sans cet outil numérique ?
Ah non, parce qu'en réalité, alors quand je dis que le numérique n'est qu'un outil, alors le terme en plus est un peu, enfin voilà, c'est un terme un peu rapidement employé, mais c'est une façon surtout d'inviter à dépasser cette question juste de l'outillage, arrêter finalement de faire un peu les Mario Bros de la sociologie où on est tout le temps en train de se demander quelle clé à molette utilise le jeune pour faire telle ou telle chose, et la question n'est pas là en fait. La question c'est quel rapport au monde je construis, quel rapport aux autres je construis à travers un certain nombre de pratiques. Ces pratiques sont en partie numériques, elles sont aujourd'hui en grande partie numériques à cause notamment du confinement, mais c'est pas parce que c'est numérique que c'est virtuel, que c'est abstrait, c'est pas parce que c'est numérique que aussi ça peut être complètement isolé du reste du monde. Et les outils sont des instruments pour agir dans ce monde, pour le comprendre. Et bien sûr, ils viennent forcément modifier notre rapport au monde. Donc, on ne peut pas dire que sans le numérique, on fonctionnerait de la même manière. Bien sûr que non. Mais il est un élément d'un ensemble.
Dans mon milieu, c'est-à-dire que c'est un milieu, on va dire, de vingtenaires, trentenaires, urbains, dans les métiers, tournant autour des médias et du numérique. J'ai l'impression qu'il faut être au courant pour s'intégrer, donc il faut s'informer et être très présent sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce n'est pas un piège par moment, selon vous ?
Oh, bien sûr, cette injonction qu'on subit presque tous aujourd'hui, finalement, cette injonction à s'informer, à être au courant et voire même à être présent, donc à exister en ligne, Elle est sociétale et elle est problématique dans le sens où si on ne s'informe pas, si on n'est pas un minimum présent, effectivement aujourd'hui, on a presque tendance à disparaître du monde, en tout cas à ne plus être considéré. C'est assez intéressant, on voit bien dans les discussions les uns avec les autres, on demande très vite aux gens s'ils ont un réseau social, s'ils ont un compte, et quand ils en ont pas, ça surprend toujours, ça amuse. Donc, c'est vrai que c'est une injonction qui est très paradoxale parce que on nous dit de faire attention, de pas trop être connecté, que c'est vraiment pas bien, on est bombardé, c'est la faute à Twitter, etc. Et en même temps, si on n'est pas au courant, on est coupé du monde social et c'est un élément de valorisation sociale et professionnelle éventuellement même qu'on perd. En plus du fait qu'aujourd'hui, ça c'est quelque chose de très très frappant, notamment avec la crise sanitaire, je trouve, on se rend compte que beaucoup d'informations passent par les réseaux sociaux et par l'information en ligne.
est-ce que vous pensez que s'informer via les réseaux sociaux a vraiment un impact sur notre manière de réceptionner l'information ?
Bien sûr, tout comme s'informer par la presse imprimée, tout comme s'informer par la radio, en fonction de la station de radio que vous allez choisir. Tout moyen d'information qu'on va utiliser, quel qu'il soit, influence notre façon de nous informer et notre rapport au monde. Quand j'écoute France Inter, par exemple, eh bien, France Inter me conseille d'aller lire Télérama, bon, en général quand même, ou Psychologie et Cerveau, etc., parce qu'ils ont des partenariats, etc. Donc, les recommandations de France Inter vont aussi me conduire, configurer mes pratiques informationnelles en dehors même de la chaîne. Et bien, finalement, alors, c'est pas un algorithme, par contre, hein, ce sont des individus qui le font, on est bien d'accord. Mais finalement, quand je suis sur un réseau social, que ce soit Twitter, Facebook, etc., là, il y a une combinaison entre des recommandations de personnes et puis des recommandations algorithmiques qui va aussi configurer mes pratiques d'information. Ce que je veux vous dire et faire comprendre à travers ces deux exemples-là, c'est que il n'y a pas que les réseaux sociaux qui configurent notre façon de nous informer.
Récemment, je suis tombée sur ce terme qui est le doom scrolling. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est le fait de scroller à l'infini les mauvaises nouvelles sur les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, c'est la définition que j'ai pu lire sur Twitter. Et c'était le jour où Samuel Paty a été assassiné. Est-ce qu'on peut quand même se dire qu'il y a un côté dans les réseaux sociaux qui incite à toujours aller vers le pire, ne serait-ce que parce que ça accroche de voir des titres accrocheurs assez horribles ?
Alors, c'est un peu compliqué parce que il y a avec les réseaux sociaux, le sentiment de devoir tout le temps être connecté puisqu'on a tout le temps peur de manquer quelque chose. Pour le coup, là, ça, c'est une évidence. Et le scrolling, on le fait tous, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, parce que des fois, on découvre aussi des choses intéressantes, hein, faut aussi le dire. Mais on le fait tous et on a tous eu ce moment toujours un peu ahurissant où on se dit, bon, allez, encore 5 minutes et où 40, 50, une heure après, on est toujours sur le même fil d'actu à actualiser ou alors sur le même enchaînement de vidéos proposées. Ensuite, la curiosité qui peut avoir un aspect curiosité morbide finalement, oui, c'est une tendance qui a été étudiée d'ailleurs en psychologie des êtres humains. Mais comme vous avez cette fascination pour le fait divers de façon générale, je ne compare évidemment pas l'assassinat de Samuel Paty à un fait divers. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a le même phénomène qui consiste à aller explorer finalement les noirceurs de l'âme humaine. Après, je crois aussi que, alors si on prend le cas spécifique des attentats, il y a certes peut-être ce rapport un peu à la morbidité, mais je crois aussi qu'il y a une forme de sidération telle qu'en réalité il y a presque un besoin de se dire mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, mais et donc d'aller revérifier, rechercher. Et puis on fonctionne par briques, par petites briques, un peu comme dans les Lego, et finalement chaque publication supplémentaire va venir réaffirmer l'information pour qu'on la conscientise et en même temps donner des informations supplémentaires. Je crois qu'il y a ça aussi. On cherche à enrichir malgré tout l'information qu'on a déjà.
Est-ce que vous auriez des conseils pour sortir au plus rapidement de cette sidération pour peut-être s'arrêter de relire en boucle les mêmes informations, quel que soit le média?
Ça, c'est la grande difficulté aujourd'hui. Ça demande une très grande autodiscipline, en réalité. Ce que je constate, moi, chez notamment les enquêtés avec lesquels je chemine, c'est qu'ils me disent très souvent, bon, maintenant, j'arrête. J'arrête l'info en continu, je coupe au maximum, je prends des temps de respiration. Et je crois qu'en fait, on en a tous besoin et que c'est nécessaire pour que le cerveau puisse traiter en fait l'information sans être avec cette surcharge permanente qu'on s'ajoute. C'est nécessaire pour que émotionnellement aussi on puisse prendre du recul. C'est vrai que c'est difficile, hein, mais c'est une règle qu'on devrait essayer de tous d'appliquer, et je me mets dedans, c'est pour ça que je suis passée au on. C'est de dire bon, stop en fait, stop. Juste, je me concentre, je coupe parce que j'ai besoin aussi de me concentrer sur une autre tâche. Je coupe parce que il faut que psychologiquement, je entre guillemets me préserve. Enfin, je sais pas, vous l'avez sûrement même vous-même vécu, quoi. Mais moi, je sais que lors du dernier confinement, ça fait bizarre maintenant, on en est à dire le précédent, le premier, le dernier confinement. Mais lors du dernier confinement, moi, je sais qu'à un moment, à la maison, on a dit stop, on arrête d'écouter. On avait cette annonce tous les jours du nombre de morts. Oui, il y a eu un moment, c'est vrai que moi, j'avoue, chez moi, ça a été bon, on arrête, stop. On n'écoute plus. Et en fait, on se rend compte qu'on va mieux. Ce qui est terrible.
Là, vous avez décidé d'arrêter. Enfin, je dis vous parce que c'est l'exemple que vous donnez. Mais à un moment où ça allait déjà mal, est-ce que vous auriez peut-être des conseils pour réussir à arrêter avant d'arriver à ce stade où on n'en peut plus ?
Bah, ce serait de réussir à doser beaucoup plus d'emblée, en fait. Alors, je crois que tout le monde a eu ce moment de saturation lors du premier confinement. Enfin, moi, dans les enquêtés que je suivais, ils m'avaient raconté tous ça. Hein. Ils m'ont tous raconté le jour où ils ont décidé qu'ils coupaient, qu'ils arrêtaient, etc. Donc, c'était assez drôle, en fait, de voir qu'on avait tous eu, quel que soit en plus notre âge, on avait tous eu les mêmes réflexes de dire à un moment, non, mais là, stop, faut que je survive, quoi, psychologiquement. Et là, je crois qu'on tire déjà les leçons. Moi, je trouve que les publications là, notamment sur les réseaux sociaux, sont un peu différentes quand même de celles du premier confinement. Et notamment, on voit que il y a déjà davantage de recul par les gens dans le quotidien par rapport à l'information. Et vraiment, oui, l'objectif, vraiment, je crois, c'est de se tenir au courant sans être dans une hyper dans une hyper information qui en fait vient complètement aussi obscurcir finalement l'horizon des individus. Alors mon autre conseil, ce serait peut-être que chacun se souvienne de ce qu'il aime faire avec les réseaux et l'information, et qu'on aille un peu se, entre guillemets, se faire du bien, en fait, se dire, ah, mais au fait, cette chaîne YouTube que j'aime suivre, ce podcast que j'aime écouter, il y a peut-être une nouvelle émission ou des émissions que j'ai pas écoutées parce que bon, voilà, j'avais été pris par le temps, etc. Il y a un petit côté bonbon, en fait, dans l'information. Mais un bonbon tout doux, quoi, quelque part. Et je crois que, ouais, c'est un vrai conseil de dire, mais reprenez, en fait, au milieu de ce fracas, en fait, d'informations négatives qui entrechoquent, qui fait mal et qui perturbe, reprenez aussi régulièrement un petit bonbon informationnel, quoi, des petits temps où on va aller regarder des archives, des émissions, des sujets d'information qui nous font du bien, dont on sait que ce sont des sujets qui nous font du bien.
Est-ce que vous connaissez des outils numériques qui permettraient, par exemple, d'aller sur les réseaux sociaux tout en retirant toutes les informations, juste pour utiliser le côté social ? Parce que moi, le problème que je rencontre, c'est que j'utilise les réseaux sociaux à la fois pour communiquer avec des amis et des connaissances, mais en même temps pour m'informer. Mais parfois, j'aimerais juste avoir le côté communication qui est rendu presque impossible par l'interface même des réseaux sociaux.
Alors, je crois qu'en fait, il faut... Alors, moi, je ne suis pas favorable, en fait, à ce qu'on enlève la part d'information et de transmission, de diffusion d'informations sur les réseaux sociaux, parce que pour moi, c'est une très, très grande richesse. Quand je dis pour moi, en tant que chercheuse, par rapport à ce que j'observe, les les adolescents, pour le coup, et les jeunes adultes, on le sait, s'informent principalement via les réseaux sociaux. Et donc, ce serait dramatique, en fait, qu'on puisse couper cet horizon-là. Je crois que c'est vraiment une grande richesse, en fait. C'est juste que il faut s'autodiscipliner, qu'il faut éduquer aussi, bien sûr, à l'évaluation de l'information, qui est quand même un challenge complexe avec les réseaux sociaux. Mais je dirais que si vous voulez n'avoir que le côté, comment vous avez appelé ça, communication sociale, mais bon, ouais, sauf qu'en fait, autour de l'information, on communique socialement, que en apprenant des choses, en fait, on échange entre nous et du coup, on apprend aussi des choses sur nous-mêmes. Donc, je trouve que c'est compliqué de couper les deux. Mais si vous voulez couper ça, ben, il y a des réseaux, enfin, des applications en tout cas, qui permettent d'en être en relation juste comme deux personnes qui s'envoient des SMS, quoi. Bon, ça existe. Moi, je trouve ça triste, en fait. Moi, je trouve ça assez tristoun. Mais c'est peut-être parce que c'est la chercheuse aussi en infocom qui, justement, trouve merveilleux qu'il y ait un accès à l'information qui puisse être autant partagé, discuté. Évidemment, il y a du café du commerce, bien sûr, mais tout comme quand je vais dans la rue et que je discute avec ma voisine, très franchement, par moment, je pense qu'on dépasse pas le niveau des pâquerettes à deux. Mais à côté de ça, il y a aussi, je trouve, des fois, des échanges ou des partages de sources qui sont extrêmement intéressants. Et les jeunes que je rencontre, moi, ils me font part de vraies découvertes qu'ils ont eues, des découvertes de sources, de YouTubeurs, par exemple, qui leur étaient conseillés par d'autres personnes sur les réseaux. Et vous voyez, là aussi, vous voulez couper les deux. Et c'est intéressant, c'est que moi, j'en ai plusieurs qui m'ont raconté qu'en fait, ils se créent des petits moments de débrief autour de l'info. Ils se soumettent en fait une info qu'ils ont vue passer et ils en discutent. Et en fait, bah, ils se partagent des sources contradictoires, etc. Et c'est pas des jeunes issus de milieux super favorisés et c'est pas des jeunes qui ont fait plein d'études. Enfin, vous voyez, pour sortir du cliché aussi qu'on peut avoir sur ça. Donc, non, moi, je suis pour qu'on conserve cette richesse, mais qu'on apprenne à l'apprivoiser, à la dompter, entre guillemets.
J'ai une petite question sur les fake news. L'idée, c'est pas de s'arrêter trop longtemps dessus, mais est-ce que vous avez l'impression que les adolescents ou les jeunes adultes tombent plus souvent dans le panneau que des personnes plus âgées ? Parce que l'impression que j'ai, moi, et je suis une relativement jeune adulte, c'est que c'est plutôt les parents, voire grands-parents, qui sont plus à tomber dans le panneau.
Eh ben, vous avez raison. Il y a un vrai critère d'âge. Il y a eu des études qui ont été menées aux États-Unis. Et puis, en France, on commence aussi à voir pas mal de choses sur ça. Hein. Et de façon extrêmement certaine, en fait, le seul facteur qui intervient dans le relais des fake news, c'est le facteur d'âge. Et c'est les seniors qui partagent le plus les fausses informations, qui les relaient le plus. Et donc, contrairement à beaucoup d'idées reçues, les jeunes, en fait, statistiquement, sont beaucoup plus au courant, sensibles et attentifs, en réalité, aux fake news et au risque de diffuser, de rediffuser des informations fausses.
Quand je tombe sur certaines fake news, je lis les titres, je me dis « Oh mon Dieu !» puis je vois quel site a écrit ça et je me dis « Bon, en fait, ça va, il n'y a pas à paniquer. »
Exactement. Alors, le problème, c'est que vous avez cette capacité, ce regard critique, réflexif et cette connaissance des sources d'informations. Les jeunes, en réalité, l'ont aussi beaucoup plus. Non pas parce qu'ils sont nés dans Internet, hein, on va reprendre sur les digital natives, pas du tout pour ça, mais tout simplement parce qu'ils ont été aussi beaucoup plus formés, et ils sont formés beaucoup plus à l'école autour de toutes ces questions-là. Et en réalité, la tranche d'âge qui n'a pas été formée, sensibilisée, et qui est du coup la plus perméable, c'est effectivement les populations plus âgées.
J'ai une dernière question pour conclure l'interview. Est-ce que vous auriez une information positive tirée de vos recherches à nous partager ?
Ah, mais j'en ai plein. Oh, il faudrait faire une émission complète. pour dire combien, mais oui, il y a plein d'informations positives. Il y a le plaisir que les jeunes et les adolescents, les enfants, comme les jeunes adultes, confient, par exemple, à s'informer. Le plaisir qu'ils confient dans leurs activités d'information, à aller butiner, notamment sur YouTube, à suivre des chaînes qui les renseignent sur l'information, sur les médias. Il y a une vraie curiosité, en fait, de leur part, et une vraie demande aussi d'être accompagnés par les adultes et par les autres, en fait, sur les questions d'information. Et ça, je crois que c'est un point extrêmement positif, en fait, de parler de plaisir de s'informer au lieu d'être tout le temps dans cette caractéristique anxiogène de l'information qu'on nous transmet aujourd'hui.
Bah super, bah merci beaucoup en tout cas.
Bah merci à vous, c'était très agréable.
J'espère que cet épisode vous a permis de vous sentir un peu mieux. Et si vous rencontrez une problématique due à la période, n'hésitez pas à m'en faire part sur les réseaux sociaux. Je pourrais vous appeler pour un prochain épisode. Pour me soutenir, comme d'habitude, c'est tout simple, lâchez des coms et des étoiles sur Apple Podcasts. Ici Anouk Perry, et je vous embrasse.